enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Psaume 34 de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à tout, à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alléluia. Voilà un psaume qui nous invite à la joie, hein, puisqu'il est dit exaltez, exaltez. Quand il y a de l'exaltation, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons son nom. Mais au verset premier, il y a peut-être une petite phrase qui peut nous amener à réfléchir, à nous questionner en disant, mais voyons voir, c'est quoi cette affaire de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec? Quand ce psaume commence avec un contexte historique, pour nous dire, voyez-vous, ce qui a été écrit, ça a été à une certaine époque. C'était un psaume de David au temps où David a contrefit. Bon, on va parler on va parler en français, ça va être plus simple, hein. J'allais dire en québécois. Lorsque David a imité, a joué le rôle d'un insensé, David s'est fait passer pour un insensé en présence d'Abimélec. Vous connaissez cette histoire? Ça se trouve dans 1 Samuel 21. Il y a juste 5 versets qu'on peut peut-être prendre la peine de les lire. 1 Samuel 21, 10. Donc là, on revient dans l'histoire à partir de laquelle ce psaume, ce cantique, psaume c'est un cantique, ça se chante, avait été composé. David, on est donc 1 Samuel 21, 10. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait et dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler de la salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» David va se réfugier. Et s'il va se réfugier là, chez Achish, roi de Gath, c'est parce que Saül en veut à sa vie. Saül a l'intention de tuer David. Là, dans le contexte, on dit, mais David, c'est le roi. C'est bien ce que vont dire les habitants d'Achish, là, les habitants de Gath, vont dire au contraire, David n'est-il pas roi? Mais Saül est roi, David est roi, et vous savez bien qu'il ne peut pas y avoir deux rois en même temps. Alors Saül a été roi d'Israël, mais Dieu a nommé, désigné par Samuel, David comme nouveau roi. Mais Saül ne l'entend pas ainsi, et il veut se débarrasser de David pour lui régner. Et donc il cherche à tuer David. David est obligé de s'enfuir alors qu'il est le roi, nommé, choisi par Dieu. David s'enfuit et se retrouve là, en exil. Et alors qu'il est en exil, on le reconnaît comme le roi, mais en disant, mais si Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. David a été un vaillant soldat, a gagné toutes sortes de batailles pour Dieu. Et voilà que on apprend que c'est David qui est là, et David prend peur. David a peur, une fois de plus. Il a fui Saül pour être en sécurité. Et voilà que maintenant, il y a une autre menace, une autre peur. Voilà qu'on reconnaît que c'est David et on va en vouloir à sa vie. Alors David va faire des extravagances. Il va faire le fou, tel point qu'il va laisser couler de la salive sur sa barbe, il va baver là, il va avoir toutes sortes d'extravagances. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit David? Voilà David, le roi d'Israël! Oula! Dans quel état il est? Toutes sortes d'extravagances. Il a de la bave sur la barbe, il est là comme fou. Le roi de Gath va dire, mais j'ai assez de fous ici. J'en ai pas besoin d'un de plus, j'en veux pas dans ma maison, et il va pas s'occuper de cette affaire-là. Bon, certains vont dire que David l'a échappé belle, c'est vrai. Mais dans ce contexte, David va dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Est-ce que c'est ce contexte-là que vous imaginez pour vous? Quand on lit ce psaume 34, on dit, moi aussi, j'aimerais bénir l'Éternel. J'aimerais pouvoir dire, je suis vainqueur, il m'a délivré, l'Éternel m'a délivré. C'est vrai, Dieu est celui qui délivre. Mais dans le contexte, c'est une drôle de délivrance. David, nous on aurait imaginé, supposé là, oh, on aimerait bien revenir à l'histoire de David et Goliath. David, souviens-toi quand tu étais plus jeune, ce Goliath-là, tu lui as tranché la tête parce qu'il était là en ennemi de tout le peuple et qu'il avait insulté le nom de Dieu. Oui, d'accord, là nous pouvons dire, je bénis l'Éternel, j'exalte le nom de Dieu, je me réjouis dans sa présence, parce que l'Éternel est grand, sa victoire est grande, il est celui qui a donné la force à David. Mais voilà que là, dans le contexte du psaume 34, la délivrance, peut-être pas celle que nous aurions vue. Mais enfin, ce qui est important, c'est que David soit pas mort. C'est que David soit pas capturé. C'est que David soit pas attrapé. Peut-être que quelqu'un de sceptique dira, mais qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Si David s'en est sorti, c'est bien parce qu'il était rusé, c'est bien parce qu'il a bien imité le fou, parce qu'il a usé là il a fait un peu de théâtre, et parce qu'il a imité, il s'est fait passer pour fou, il s'en est sorti. Mais voyez-vous, pour David, s'il est vivant et s'il veut bénir l'Éternel, c'est pas parce que il va dire j'ai eu de la chance, j'ai eu une bonne idée, j'ai eu une bonne ruse, mais parce que Dieu était avec lui. Quand David va trancher la tête de Goliath, c'est évident que Dieu est avec lui. Il est là avec une fronde et quelques pierres. Il court et d'ailleurs il dit bien quand il va rencontrer Goliath, c'est au nom de l'Éternel que je viens contre toi. Mais là, dans ce contexte-là, on va dire, mais c'est moins évident. Mais pour David, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui agit. Et ça doit nous parler ce matin. En disant que c'est vrai qu'il y a des situations dans nos vies où c'est tellement évident que c'est Dieu qui a agi. C'est tellement évident que c'est Dieu qui est intervenu. C'est tellement évident que c'est Dieu là qui nous a délivrés, qui nous a secourus. De toute façon, les hommes pouvaient rien. Nous n'y pouvons rien. Mais Dieu, lui, a agi. Un peu comme cette histoire qu'aimait se raconter le peuple d'Israël, et ils avaient raison. Souvenez-vous, nous étions en Égypte, et Moïse nous avait fait sortir d'Égypte, et voilà qu'on s'est retrouvés face à la mer. On pouvait pas passer, mais la mer des roseaux a été ouverte, la mer s'est séparée en deux, nous avons traversé à sec, et quand les Égyptiens sont venus, eh bien, la mer s'est rabattue sur eux, ils se sont noyés. Dieu nous a délivrés à bras étendus, à main forte, à bras étendus. Il est celui qui nous a délivrés. Là, c'est clair, c'était pas Moïse, c'était pas les hommes, c'était pas un coup de chance. C'est clair que Dieu était dans l'affaire. Mais il y a d'autres affaires où peut-être pour nous c'est moins clair et qu'on serait tenté de dire j'ai eu de la chance. On serait tenté de dire c'est grâce à mon intelligence, à mon bon sens, j'ai pris la bonne décision. David aurait pu dire, là, j'ai pris la bonne décision, j'ai eu le bon réflexe, j'ai fait, heureusement que j'étais un bon acteur, et puis il a marché dans ma combine. Non. David dit, je bénis l'Éternel. Parce que c'est lui qui entend. C'est lui qui délivre. Que nous puissions avoir ce même cœur de David qui dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et ce « en tout temps » prend tout son sens quand on réalise le contexte. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Alors que tout le monde en veut à la vie de David. Saül veut le tuer. Là, il se retrouve dans une ville où on en veut à sa vie aussi. David dit « Même là, je bénirai l'Éternel. » Est-ce que nous, on est capable de bénir l'Éternel en tout temps? Ah, pour certains, bénir l'Éternel, c'était le dimanche matin, d'accord. Mais que ce soit pas que le dimanche matin, bénir l'Éternel en tout temps. C'est pas seulement une histoire de date, d'heure ou de calendrier. Il s'agit ici d'une histoire de circonstance. Quand tout va bien, c'est facile de bénir l'Éternel. Quand il vient de nous relever, de nous donner un miracle, alors là, on peut le bénir avec joie et c'est pas difficile. Mais quand on est dans la souffrance, quand on est dans la difficulté, quand on est comme Paul et Silas dans une prison à Philippe, et qu'on vient de recevoir quelques coups de bâton immérités, eh bien, leur choix à eux, c'est de bénir l'Éternel. Et ils se sont dit l'un à l'autre, c'est un bon moment pour bénir l'Éternel. Oui, c'est un bon moment, parce que c'est toujours un bon moment. C'est ce que dit David. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Mais notez bien que si on dit c'est plus facile de louer l'Éternel quand tout va bien et que quand tout va mal, ben là, c'est moins évident de le bénir. Ben quelque part, c'est peut-être là même qu'on en a le plus besoin de bénir l'Éternel, de nous approcher de lui, de nous repasser en mémoire ses bontés et de nous souvenir qu'il est grand. Et qu'il entend. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et David ne veut jamais sous-estimer la puissance, la grandeur de Dieu. Il veut toujours rendre louange, louer Dieu, et rendre toujours l'honneur qui est dû à Dieu. Qu'en ce qui nous concerne, nous puissions aussi toujours avoir des mots de louange envers Dieu. En tout temps, sa louange toujours dans ma bouche. Que ça aille bien ou que ça aille pas. Même si on est là sur un lit d'hôpital, est-ce qu'on peut louer le Seigneur sur un lit d'hôpital et dire autour de nous, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour toi, mais s'il était bon pour toi, pourquoi tu es sur un lit d'hôpital? Ah, vous avez raison, il vaut mieux pas le dire alors. Si, il faut le dire. Dieu est bon en tout temps. Hein, ça c'est Stéphane Kerry qui dit toujours ça. Dieu est bon en tout temps, non? Dieu est bon. Mais c'est marqué là. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Parce que si nous louons le Seigneur, quand on loue quelqu'un, la louange que l'on fait vers quelqu'un, c'est pour ce qu'il est. On loue pas le Seigneur seulement pour ce qu'il fait. Ça, c'est pas la louange. C'est la reconnaissance. Mais louer quelqu'un, c'est pour ce qu'il est. Est-ce que vous me suivez? Je vais louer quelqu'un parce que on dit, ah, ça c'est quelqu'un de modeste, ou ça c'est quelqu'un d'intelligent, ou ça c'est quelqu'un de bon. D'accord? Mais je le loue parce qu'il est bon. Mais je vais pas dire, il a rien fait pour moi, alors il est plus bon. Non. S'il est bon, il est bon. Si je loue l'Éternel pour ce qu'il est, il est Dieu, il est grand, il est roi, il est au-dessus des cieux et de la terre, il est celui qui est plein d'amour, de compassion, de bonté, il est celui qui a tant aimé le monde, ne serait-ce que ça, c'est une raison suffisante, et il n'y a pas besoin de plus pour dire sa louange, ma louange sera toujours dans ma bouche en ce qui le concerne. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, et qu'à l'intérieur de nous-mêmes, puissions nous réjouir, nous glorifier en Dieu. Et là, cette fois-ci, c'est un appel à ceux qui nous entourent, on est au verset 3, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Et dans ce psaume, vous avez remarqué qu'il y a comme deux catégories d'auditeurs, il y a les malheureux, que les malheureux écoutent et se réjouissent, et puis il y a aussi les questions de ceux qui sont saints. Une question, on pourrait dire comme s'il y avait ceux qui connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu. Et là, c'est comme si on appelait au travers de ce psaume, on disait, écoutez, vous qui ne connaissez pas Dieu et qui êtes là malheureux, écoutez, que les malheureux écoutent, écoutez. Et c'est un peu ce qu'on veut faire dans cette église, et c'est là la tâche, la mission, le rôle de l'église. Eh bien, de propager cette bonne nouvelle et dire autour de nous, écoutez et réjouissez-vous. Vous êtes là dans le malheur, mais vous ne savez pas la bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle, écoutez-la. Mais pour l'entendre, il faut la proclamer et nous voulons chaque fois que cela est possible, que ce soit dans ce lieu, que ce soit chacun d'entre nous d'une manière individuelle, personnelle, sur le lieu du travail, dans les maisons, dans les familles, dans là où on se trouve, qu'on puisse dire « écoutez cette bonne nouvelle ». Parce que là, le contraste entre que les malheureux écoutent et se réjouissent, ça sous-entend que ce qu'ils vont entendre va transformer leur vie. Puisqu'ils sont malheureux, mais parce qu'ils écoutent, maintenant ils vont se réjouir. Parce que ce qu'ils entendent, c'est une bonne nouvelle qui amène de la joie. Cette bonne nouvelle, l'évangile, ça veut dire ça, évangile. Évangile, ça veut dire en grec, bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui amène de la joie et qui change le cœur du malheureux. Écoutez, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Et là, David dit dans son psaume, exaltez avec moi. Mais pour amener les autres, le malheureux, à écouter, à se réjouir, et même plus encore à exalter, David dit « avec moi ». C'est pas seulement « écoutez, réjouissez-vous, et vous serez heureux, et vous serez joyeux, avec moi ». Quelque part, ça veut dire « regardez la joie que j'ai, regardez la paix que j'ai, regardez la vie que j'ai, ce que Dieu m'a donné, il veut vous le donner ». Comment est-ce qu'on peut communiquer de la joie à quelqu'un si on n'est pas joyeux nous-mêmes? Il y a ce personnage de dessin animé, de Tex Avery. Vous connaissez Tex Avery? C'est vieux hein, comme dessin animé. Personnage Droopy. Vous connaissez pas Droopy? Je suis si vieux que ça. comprends que les jeunes, ils sont plus avec les mangas japonais, là. Mais Droopy, c'est un petit chien là blanc qui dit « You know what? I'm happy. » Vous connaissez pas ça? Bon, ben j'ai pris un coup de vieux d'un coup, là, comme ça. Ça vient des États-Unis, alors je dis pas c'est français, ça. Bon. Enfin, personnage dessin animé, la caractéristique, où il est là, avec un ton très grave, très sérieux, et il dit « Je suis heureux. » Bon, si tu le dis. Est-ce que c'est ça, le chrétien qui va autour de lui dire « Hey, tu sais quoi? C'est formidable. » Ça vous fait rire? Non, David dit « Exalté avec moi. » Moi, j'exalte l'Éternel. Moi, j'ai de la joie dans le cœur. Moi, j'ai de la vie et ce que j'ai, je veux te le donner. Et que nous puissions dire, en ce qui nous concerne, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous de ta vie, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ce que tu nous as, de tout ce que tu veux nous donner, et que nous puissions communiquer, lorsqu'on rend témoignage, que ce soit témoignage de ce que nous avons, nous-mêmes, reçu. Et c'est ça, exalter avec moi l'Éternel, et David va dire, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a secouru. Le témoignage de David, quand il s'adresse aux malheureux qui sont autour de lui, c'est ça, hein? Malheureux, écoute et réjouis-toi, exalte avec moi, parce que j'ai, et c'est ça notre témoignage, j'ai cherché l'Éternel et il m'a secouru. J'étais moi-même malheureux avant, mais j'ai cherché l'Éternel, il m'a secouru. Et là, en sous-entendu, ça veut dire, ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Et c'est ça, rendre témoignage. C'est de dire, regarde, écoute ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a sauvé, il m'a transformé, il m'a libéré, il a mis de la joie dans mon cœur. Et ce qu'il a fait pour moi, c'est pour toi aussi. Écoute et réjouis-toi. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. David dit, vous savez, entre vous et moi, j'avais de quoi être effrayé. J'avais le roi d'Israël et tout Israël derrière lui, puisqu'ils étaient bien obligés de le suivre, ils cherchaient à me tuer. Je suis passé bien des fois à ça de la mort. Je suis allé me réfugier dans un coin tranquille, et là, non, c'était pas tranquille, on en a voulu à ma vie aussi. J'ai dû faire le fou pour m'échapper. Et il dit, dans ces moments de frayeur, Dieu est celui qui m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et c'est vrai que des fois dans la vie, on peut avoir des bonnes raisons pour s'inquiéter. Des bonnes raisons pour angoisser, des bonnes raisons pour être saisi de frayeur. Mais Dieu est celui qui délivre de toutes les frayeurs. Et le message que l'on peut donner, c'est pas seulement de dire, David n'est pas là en train de dire, écoute mon ami, Dieu est celui qui délivre de toutes les frayeurs, parce qu'un jour quelqu'un me l'a dit, parce que j'ai lu ça quelque part dans le prophète. Il dit non, parce que moi, j'étais dans la frayeur et il m'a délivré. Et que notre témoignage soit pas le témoignage de seconde main quelque part, de dire, je vais te parler du Dieu que le pasteur parle. Je vais te parler du Dieu que j'ai entendu il y a quelques années, je me souviens, ou alors j'ai lu un livre, et je vais te parler de ce qui a marqué dans ce livre. Non, je vais te parler de ce qu'il y a dans mon cœur, et de ce que Dieu a fait pour moi. Je peux vous dire, oui, l'Éternel est celui qui délivre de la frayeur. Il est notre paix, comme on l'a chanté, en lui se trouve la paix. Au verset 6, David continue son témoignage en disant « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. » Malheur, malheureux, écoutez, réjouissez-vous. Il est celui qui délivre de toutes les frayeurs. Quand j'ai cherché, il a répondu. Quand on tourne les regards vers lui, c'est plus le malheur qui est sur notre visage. On n'est plus rayonnant du malheur qui est autour de nous, qui était même en nous, mais on est rayonnant de joie. juste en tournant les regards vers lui. Et certains diront, ben, on tourne les regards vers lui, mais ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose, c'est vrai. Rien qu'en tournant les regards vers lui, ça suffit. Même si autour de nous, rien n'a changé, ça suffit pour que sur notre visage, tout change et que tout d'un coup, on soit rayonnant de joie. Pourquoi? C'est ce qui s'appelle la foi. Parce que quand je tourne les regards vers lui, ben, je vois qui? Lui. Je tourne les regards vers lui, je tourne les regards vers Dieu, je vois Dieu. D'accord? Mais je le vois comment? Ben, tel qu'il est. Je le vois dans sa puissance, je le vois dans sa gloire, je le vois dans sa force, et je vois son amour. Quand je tourne les regards vers lui et que je croise ses regards, et que je l'entends comme Jésus va le dire bien souvent dans l'Évangile, ne crains pas, crois seulement. Même si autour de moi, rien n'a changé, parce que je suis en contact avec le Dieu Tout-Puissant, parce que j'ai tourné mes regards vers lui, qu'il est celui qui a répondu à mon regard, à mon appel, il vient mettre de la joie en moi, parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Et comme pouvait dire Job, alors qu'il est là dans la détresse, qu'il est là dans le malheur, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Il le sait. Quand on tourne les regards vers lui, quand on cherche Dieu, quand on est là dans la prière, quand on est là en train de rechercher la face de Dieu et qu'il se révèle à notre cœur, cela vient mettre de la joie en nous parce que nous savons qu'il est grand, qu'il est puissant et qu'en lui, nous avons tout. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir lu ça. Il n'y a pas longtemps. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Pourquoi David peut dire ça? Parce qu'il l'a expérimenté. On est là dans ce témoignage. Hein. David dit, malheureux, écoutez et réjouissez-vous. Moi, j'ai cherché l'Éternel. J'ai crié et il m'a répondu. Il m'a délivré. Quand on tourne les regards vers lui, eh bien, on a de la joie dans le cœur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oui, Dieu n'est pas sourd. Il y en a qui pensent que Dieu est sourd. Non, il n'est pas sourd. Ah ben, en ce qui concerne les idoles, les faux dieux, c'est sûr que là, c'est pas la même chose. On se souvient du prophète Élie qui va bien s'amuser avec ça. Quand il est là sur la montagne et qu'il y a il va falloir choisir, j'ai dit Élie, non c'est Élisée, hein, entre les Baals, les Astartés et puis le Dieu d'Israël, il va dire bon on va choisir le Dieu qui répondra, sera le vrai Dieu. Alors voilà que les faux prophètes vont trier toute la journée auprès des Baals, des Astartés, en disant ben que nos dieux répondent et il se passe rien. Et là, un prophète un peu moqueur va dire, ben, votre Dieu, il entend peut-être, il est peut-être un peu sourd, là, parlez plus fort. Peut-être qu'il vous entendra mieux si vous criez un peu plus fort. Ou il est peut-être parti en voyage, ou... Mais en tout cas, quand le prophète, lui, va prier, ça va pas prendre des heures et des jours, mais le feu du ciel va descendre. Dieu n'est pas sourd. Ah, peut-être que quelqu'un dira ce matin, mais alors si Dieu n'est pas sourd, pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression qu'il ne se passe rien dans ma vie? Moi, j'aimerais vous encourager en disant que ce qui est écrit dans ce livre, c'est vrai. La Bible est vraie. Ses promesses sont vraies. Et pas seulement ce qui veut dire, bon, appuyez-vous sur ce qui est écrit dans ce livre. Est-ce qu'il y en a ce matin qui pourrait dire, moi j'étais malheureux, j'ai crié et il a répondu? Il y en a qui peuvent lever la main là? Et ceux qui ne croient pas, regardez ceux qui ont une main levée, vous pourrez aller les voir à la fin de la réunion en disant, c'est vrai cette affaire? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et vous irez écouter. C'est important de réaliser qu'aujourd'hui encore, Dieu entend, qu'il agit, qu'il répond. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu est celui qui veut pour nous le bonheur et non le malheur. Il nous aime. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a dans ce psaume comme deux catégories, un peu là le malheureux, et puis le juste ou les saints, ce qu'on retrouve aussi. Au verset 18, on a là comme un écho. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Quelqu'un dira, ah, même si on n'est pas malheureux, l'Éternel nous entend. Oui, même si on n'est pas malheureux, quand les justes crient. Mais pourquoi ils crient, les justes? Parce qu'il y a un besoin pressant, criant. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ça ne vous surprend pas de voir le mot détresse associé au juste? Quelque part, on pourrait dire, mais celui qui ne connaît pas Dieu, s'il est dans la détresse, c'est normal. Il est loin de Dieu. Et Dieu est celui qui va le sauver de sa détresse. Mais quand on est dans les bras d'amour de Dieu, quand on est dans sa présence, quand on vit avec lui, quand on est là dans sa justice, quand on est sous son aile, est-ce qu'on peut connaître la détresse? Qu'est-ce qu'il est dit au verset 20? Le malheur atteint souvent le juste. Nous, on aurait préféré le malheur atteint peut-être occasionnellement, rarement. Jamais, c'est mieux encore. Mais là, c'est souvent. Alors rassurez-vous, ça peut arriver. Et pas une fois, souvent. Oh là, c'est pas des bonnes nouvelles, ça. Le malheur atteint souvent le juste. Mais la bonne nouvelle, c'est que, contraire de jamais, c'est toujours, l'Éternel l'en délivre toujours. Et là, ce mot toujours a toute sa force, tout son poids. L'Éternel délivre toujours. Pourquoi? Parce que quand le juste crie, l'Éternel entend et il délivre. Quand on crie, l'Éternel entend et il délivre. Quand on appelle à lui, il entend, il délivre. Et si le malheur peut atteindre le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Enfin, notez bien, si on veut vraiment faire rester logique par rapport à tout ce qu'on vient de lire, celui qui est dans le malheur, mais qui ne crie pas à Dieu, est-ce qu'il sera délivré? Je ne vais pas dire non, parce que j'ose croire que Dieu, des fois, est capable de nous délivrer, même si on ne le demande pas. Vous ne croyez pas? Mais ce n'est pas systématique. Si on ne demande pas, est-ce que Jésus n'a pas dit tout simplement, demandez et vous recevrez? Si on ne demande pas, est-ce qu'on peut recevoir? Peut-être que quelqu'un dira, ben, moi j'ai besoin là. Et c'est vrai que je demande peut-être pas. Eh bien, osez demander. Osez crier. Osez chercher la face de Dieu. Il est celui qui entend. Sa volonté est claire. Il délivre. Et plus encore, il délivre toujours. Il délivre toujours. Et pour boucler la boucle, et en revenant au verset premier du chapitre du psaume, il délivre toujours, mais pas forcément de la manière dont on aurait voulu. Souvenez-vous de David avec de la bave qui coule sur sa barbe, et on est en train de dire, mais il est complètement fou. Et David dit, il m'a délivré. L'Éternel m'a délivré. Est-ce que nous, si on avait été là, un compagnon de David, on aurait dit à David, « Alléluia! Quelle victoire extraordinaire! Comment Dieu t'a délivré de la main là, d'Abimélec! Comment Dieu t'a délivré de la main là! Tu aurais pu mourir, mais Dieu t'a délivré parce que tu as fait le fou! Ah! Quelle gloire !» Pour reconnaître que nous, des fois, nous cherchons la gloire de Dieu, des fois là où elle n'est pas, et que là où elle est, on ne la voit pas. Et qu'on puisse se réjouir et voir la gloire de Dieu là où elle est. Que ce soit dans des grandes et belles choses, c'est vrai. Gloire à Dieu pour les prodiges, les miracles, pour demande, on reçoit, on se réjouit, parce que le Seigneur agit aujourd'hui encore. Je voulais que Marc Choquette rende témoignage ce matin, mais il a... Comment ? Mais je l'ai eu au téléphone là ce matin, il a de la fièvre, là, alors il voulait pas vous contaminer avec ces virus. C'est par amour pour vous qu'il est pas venu. C'est ce qu'il m'a dit. Dimanche dernier, il était là courbé, il ressemblait un peu à cette femme courbée de l'évangile. Il était là courbé, on a prié pour lui, et maintenant il est droit. Gloire à Dieu, j'aurais voulu que ce soit lui qui vous le dise, mais enfin, on le verra dans les jours à venir. Dieu agit aujourd'hui encore. Il agit. Et c'est vrai qu'on se réjouit quand il y a quelque chose comme ça de tellement visible, de tellement évident. C'est vrai aussi que des fois, dans des choses qui sont peut-être insignifiantes, de la vie de tous les jours, ou même des choses qui sont peut-être méprisables pour nous, parce qu'un roi qui passe pour fou, avec de la bave, là, quelle image dégradante pour un roi que Dieu a oint. C'est ça le serviteur de l'Éternel? J'espère que vous ne me verrez pas comme ça un jour. Qu'on n'ait pas de mépris et qu'on sache des fois prendre du recul et de dire, mais réfléchissons. David était en danger. Le résultat, c'est quoi? Il a la vie sauve. C'est ça qui est important. Des fois, nous, on se focalise sur un détail en disant, mais pourquoi? Pourquoi tel problème? Pourquoi l'hôpital? Pourquoi tel ou tel incident? Pourquoi telle ou telle circonstance? Seigneur, apprends-nous à prendre du recul. Et à pas nous focaliser sur ce que là est pour nous peut-être méprisable, et là pour nous comme une anomalie, quelque chose qu'on comprend pas. Et Seigneur, aide-nous à prendre du recul, et à voir ta gloire. Et à pouvoir dire, oui, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche, parce que l'Éternel délivre toujours. Peut-être pas de la manière dont on l'aurait voulu, mais c'est quand même la délivrance de l'Éternel. David a été quand même délivré. Délivré de la mort, délivré de l'angoisse, délivré de la frayeur. Il est là, vainqueur. D'une manière qui nous surprend peut-être, mais vainqueur quand même. Qu'on puisse dire, Seigneur, le plus important finalement, c'est pas la manière. Et c'est peut-être pas à nous à dicter à Dieu la façon et la manière, mais qu'on puisse dire simplement, Seigneur, c'est toi qui décides. Choisis la manière, le plus important, c'est d'y arriver. C'est d'y arriver. Et c'est d'être là, au bout, et de pouvoir dire, oui, le malheur était là, mais l'Éternel a délivré. Job a connu des temps de malheur, mais l'Éternel a délivré. Et si on prend pas de recul, et si on est là en plein milieu du nœud de l'œil du cyclone, on voit pas toutes ces choses. Qu'on puisse dire, Seigneur, avec confiance, je crois. Et qu'on puisse peut-être revenir un petit peu sur nos vies, et si on réalise un petit peu ce qui s'est passé dans nos vies ces dernières semaines, ces derniers mois, ou ces dernières années. C'est-à-dire, c'est vrai que là, j'ai dit que j'avais eu de la chance. Peut-être Dieu qui a fait quelque chose. J'ai dit que là, j'ai été chanceux, que là, bon, je m'en suis bien sorti, j'ai pris la bonne décision. Mais est-ce que Dieu n'était pas derrière? Est-ce qu'il y a des fois comme ça où on a oublié de lui rendre gloire, de l'honorer, d'exalter son nom? Parce que c'est lui qui agit, c'est lui qui intervient. Et qu'on puisse autour de nous, pour ceux qui sont malheureux, pouvoir leur dire, écoutez, réjouissez-vous, j'ai cherché l'Éternel, j'étais dans telle situation, il m'a secouru, il m'a délivré, parce que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire pour vous. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et non seulement il entend, mais il délivre de toutes ses détresses. Peut-être que ce matin, plusieurs ont besoin d'être encouragés et de dire, Seigneur, moi, je suis là dans la détresse. Le malheur, c'est peut-être un mot fort, mais je suis là dans la détresse, je suis là dans la difficulté et j'ai besoin de toi. Eh bien, prenez courage, parce qu'il y a le mot « toujours ». Il entend et il délivre toujours. Qu'on puisse avec humilité dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, que la délivrance se passe de la manière dont toi tu l'auras décidé. Mais une chose est sûre, c'est que ton nom va être glorifié, que ton nom va être honoré au travers de la situation, parce que tu es celui qui délivre toujours.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.